Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'itinéraire, Nature sauvage et Québec Science. Au programme, Espace Science 2023. La voie des grands espaces. Et à Tchernobyl, les chiens sont mutants. Bonne écoute.
Espace Science 2023, par Gabriel Lavoie, un texte paru dans l'itinéraire du 1er avril 2023. Tout est science. Des confins de l'univers à la nature qui nous entoure, dans la technologie de tous les jours en passant par la vie sur Terre, la science est partout. L'odorat des chiens. Saviez-vous que le système olfactif des chiens est de 1000 à 100 000 fois plus développé que celui des humains? On compte 220 millions de récepteurs olfactifs pour le chien contre 5 millions pour l'humain. Cette extraordinaire faculté leur permet de suivre la trace d'une odeur, même vieille de plusieurs jours, sur une longue distance. Nos compagnons peuvent détecter toutes sortes d'odeurs, celles des individus, d'autres chiens, d'autres animaux et des dangers. Ils comprennent littéralement leur environnement en reniflant tout, partout. La plupart des chiens peuvent être entraînés à la détection d'explosifs, de drogues et même de cancers. Le système olfactif des chiens fonctionne de deux manières, par l'inspiration et l'expiration. Les odeurs de nourriture et d'urine, par exemple, passent par ce second système. Les propriétaires de chiens ont ainsi sûrement remarqué que leurs chiens inspirent et expirent de façon très rapprochée. Tous les chiens n'ont cependant pas les mêmes compétences en matière d'odorat. En effet, les chiens avec un museau allongé ont un système olfactif plus développé que ceux dont le museau est écrasé. La qualité de vie de l'animal passe par son odorat. Il a besoin de tout renifler. Il aime certaines odeurs, viande fraîche et avariée, poisson, fromage fort. Il en déteste d'autres, vinaigre blanc, ail, agrumes, entre autres. Mais la meilleure et la plus rassurante de toutes est celle de son maître. L'ouïe du chien. Les ondes sonores que les humains sont capables d'entendre se situent entre 20 et 20 000 Hertz. Des sons moyens. Le chien, lui, peut entendre des ultrasons de l'ordre de 50 000 Hertz, soit une octave plus aiguë que ce qui est audible pour l'homme. D'autre part, il entend des sons plus graves également jusqu'à 20 Hertz. Nos oreilles sont constituées assez simplement comparativement à celles d'un chien, ce qui fait qu'il peut notamment orienter la direction de son écoute, se concentrer sur un son en particulier, dissocier des sons qui se croisent. Un chien peut agir comme un système d'alarme. Un son de faible intensité que nous pouvons entendre à 4 mètres, le chien peut l'entendre à 25 mètres. Pour ceux qui ont un chien, vous avez souvent vu votre animal se relever soudainement et aller à la fenêtre, parfois en aboyant. Il réagit simplement à des sons que vous n'entendez pas encore. Les chiens peuvent endurer des sons allant jusqu'à 90 décibels. Il est à la limite de ne pas supporter le nombre de décibels qu'émet une personne qui doit hausser la voix pour se faire entendre. Au-delà, ça peut être très douloureux pour Pitou. La vue du chien. Si certaines personnes croient que les chiens ne voient qu'en noir et blanc, eh bien, cela est faux. Cependant, il faut dire que leur palette de couleurs est plus limitée que la nôtre. Ils perçoivent le jaune et le bleu, mais surtout des différences de luminosité. Vous avez sûrement remarqué qu'à la tombée de la nuit, votre chien a un reflet fluorescent dans les yeux. C'est qu'il a une pellicule au fond de la rétine qui lui permet de capter 5 fois plus de lumière que les yeux humains. Il peut chasser une proie avec la lumière des étoiles. Par contre, il voit mal les détails ou les reliefs à moins de 25 cm. Pour la fréquence de vision, Nous voyons 16 images par seconde. La télévision permet de voir 25 images par seconde, qui donne l'impression d'une image continue. Au cinéma, pour obtenir un ralenti, on tourne à 50 images par seconde, ce qui correspond au nombre d'images que les chiens peuvent voir par seconde. Ainsi, ils peuvent percevoir un mouvement humain à 1,5 km de distance, mais ne percevront pas un objet inerte. Nous avons vu précédemment l'odorat exceptionnel du chien qui peut sentir des kilomètres à la ronde. Son ouïe, qui peut entendre des ultrasons et des infrasons, sa vision, qui peut repérer des mouvements à plus d'un kilomètre. Toutes ces caractéristiques font du chien un allié incomparable dans beaucoup de domaines comme la médecine, la police, la chasse et bien d'autres. C'était Espace Science 2023, un texte de Gabriel Lavoie, paru dans l'itinéraire du 1er avril 2023. Le loup gris, la voix des grands espaces. Un texte de Michael Degen, paru dans Nature sauvage, hiver 2021-2022, numéro 54. Vénéré par les uns, diabolisé par les autres, il est un des animaux ayant le plus frappé notre imaginaire. Loin d'être une bête sanguinaire, le loup gris veille scrupuleusement sur sa famille et assure la santé des écosystèmes. Puisant dans les archives et les dernières études scientifiques, partons à la découverte de ce canidé légendaire. France, 1764. Les campagnes de la région montagneuse du Gévaudan sont le théâtre d'événements tragiques. Une créature attaque sauvagement les paysans. La bête féroce, telle qu'elle est décrite à l'époque, tue une centaine de personnes et en blesse plusieurs autres. Selon les autorités, aucun doute, il s'agit d'un loup. Des battues s'organisent, des centaines de loups sont massacrés. Or, les attaques continuent. Des témoins jurent que l'animal ressemble à un loup, mais n'en est pourtant pas un. Le fissipède aurait-il été accusé à tort? Peu importe. Il a de tout temps été le parfait bouc émissaire. Victime d'une chasse aux sorcières pendant des siècles, le canidé disparaît de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest au milieu des années 1800. Campagne d'élimination. De l'autre côté de l'Atlantique, le loup a longtemps bénéficié d'une relative quiétude. Loin de le percevoir comme une créature maléfique, plusieurs nations autochtones lui vouaient un profond respect. L'arrivée des colons européens allait tout changer, car, inapte à cohabiter avec ce vieil ennemi, ils lui réservèrent le même traitement qu'en Europe. En 1793, une prime est versée aux colons du Haut-Canada qui tuent l'animal. En 1831, l'acte pour encourager la destruction des loups est voté au Bas-Canada. Les épopées des villageois aux prises avec l'imposant canidé faisaient fréquemment les manchettes. En 1835, le journal Le Canadien informait que des loups rôdaient près de Saint-Hyacinthe. Permettez-moi de vous apprendre qu'à 3 lieues de notre village, des ravages terribles parmi les animaux. L'on est sur le point de faire une grande chasse pour éloigner ces visiteurs incommodes. Bien que s'attaquant parfois au bétail, le loup était souvent injustement accusé de tous les péchés. En 1907, un chasseur s'adressait au quotidien La Presse. « C'est au loup qu'il faut imputer l'extermination à peu près complète du bison américain. » En 1962, des chroniqueurs de chasse et pêche lui reprochaient de menacer la survie des cerfs de Virginie au Québec, où il a été la cible de campagnes d'élimination jusque dans les années 1970. aujourd'hui absent au sud du fleuve Saint-Laurent, il a pareillement disparu du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. La meute, une histoire de famille. La meute est couramment considérée comme un groupe de loups en compétition permanente entre eux pour le rôle de loup alpha. Cette vision serait toutefois inexacte. Ce concept remonte aux années 1940 et provient des travaux du Suisse Rudolf Schenkel sur des loups en captivité. La réalité est que les loups ont un tout autre comportement à l'état sauvage. En 1999, le zoologiste américain David Meek, autrefois défenseur de l'idée du loup alpha, publie une étude qui révolutionne les connaissances sur le sujet. Verdict : en nature, le fameux couple alpha est en fait le couple parental et les autres individus de la meute sont sa progéniture. Unis habituellement pour la vie, le couple parental détient ainsi une autorité naturelle sur sa descendance. Chaque année, après 2 mois de gestation, la louve donne naissance à une portée de louveteaux. Les parents et le reste de la meute les élèvent ensemble. Les jeunes seront initiés aux rudiments de la chasse vers l'âge de 4 mois. Après 2 ou 3 ans, ils partiront seuls à la recherche d'un nouveau territoire afin de créer leur propre meute. Leur domaine vital couvre en moyenne de 250 à 750 km carrés. Vous écoutez « Le loup gris, la voix des grands espaces », un texte de Michael Dijen, paru dans Nature sauvage, hiver 2021-2022, numéro 54. Un intrigant hurlement. On sait maintenant que le hurlement du loup, longtemps source de mystère, est un de ses nombreux moyens de communication. Contrairement au mythe, le loup ne hurle pas à la lune. En réalité, ce cri se fait entendre à tout moment de la journée. Le loup l'émet dans le but de localiser ses congénères et de signaler sa présence aux meutes avoisinantes. Cette plainte singulière tient également lieu d'activités sociales, contribuant à souder les liens entre les individus. Toutes les occasions sont bonnes. Le loup peut hurler avant et après une chasse fructueuse, ou bien lors de la naissance ou de la mort d'un des siens. Les louveteaux pousseront leur premier hurlement dans les 3 à 4 semaines suivant leur naissance. Le loup utilise aussi une panoplie d'autres sons. Il gémit pour exprimer des intentions amicales, jappe pour sonner l'alarme et grogne pour manifester de l'hostilité. Communiquant également par les odeurs, il laisse des messages chimiques, urinant et déféquant à des endroits stratégiques en vue de marquer son territoire ou d'appeler à la reproduction. Fort expressif, il fait en outre appel au langage corporel pour partager ses états d'âme. Gestionnaire de son écosystème. Grâce à sa faculté d'adaptation, le loup est apte à évoluer dans différents habitats, forêts mixtes, boréales ou subarctique, ainsi que toundra arctique. Carnivore consommé, il se nourrit principalement d'ongulés. Au Québec, le cerf de Virginie, l'orignal et le caribou font partie de ses proies de prédilection. Dans le reste du pays, bisons, bœufs musqués, wapitis et chèvres de montagne s'ajoutent au menu. Il apprécie également de petites proies comme le castor, le lièvre d'Amérique et même des poissons. Seul un loup ne représente pas le prédateur le plus fort ni le plus puissant. En équipe, néanmoins, il devient redoutable. Doté d'une grande intelligence, il perfectionne ses stratégies de chasse au fil du temps et profite de l'expérience de ses aînés. Une de ses techniques de chasse est la battue. Les individus se dispersent et progressent de façon coordonnée. Une fois une proie repérée, le loup mettra à contribution un de ses principaux atouts, l'endurance. À l'inverse du cougar, qui possède une faible capacité pulmonaire, le loup pourchassera sa proie sur des kilomètres, courant parfois à plus de 40 km/h et couvrant au-delà de 5 mètres en un seul bond. Ses proies sont souvent très rapides et agiles. C'est pourquoi si le loup et ses compagnons de chasse attaquent un troupeau, ils en isoleront l'élément le plus vulnérable. La mise à mort est quelquefois longue et pénible. La proie est dévorée vivante et la lutte s'éternise si le futur repas est combatif. En dépit de ses talents de chasseur, le loup doit se montrer persévérant, car ses tentatives sont infructueuses 9 fois sur 10 et son régime s'apparente à une alternance de festins et de disettes. Le loup remplit une fonction essentielle dans l'équilibre des écosystèmes. En éliminant les individus faibles et malades, il favorise la santé des populations. Si les carcasses de ses proies servent de buffet aux insectes et aux charognards, la réduction du nombre d'herbivores restreint le broutage excessif, améliorant ainsi la qualité des habitats naturels et la biodiversité. Fait notable, le contrôle des herbivores par le carnassier contribue à diminuer la fréquence de collisions routières. Le grand méchant loup? Loin d'être la bête assoiffée de sang de nos contes d'enfance, le loup est plutôt timide et il évite de croiser notre chemin. Or, l'impressionnant canidé n'est pas une pluche pour autant. Les registres le confirment. Un loup peut attaquer, voire tuer un humain. L'Institut norvégien de recherche sur la nature a dressé un bilan exhaustif des attaques de loups à travers le monde. Celui-ci révèle que les attaques sont rarissimes et causées principalement par des spécimens atteints du virus de la rage ou ayant perdu leur crainte de l'humain. Au Canada, une 30aine d'attaques ont été répertoriées entre 1900 et 2000. Depuis 1945, le loup serait responsable de seulement 3 décès au pays, dont un cas en 1963 près de Baie-Comeau. Dans le rare cas d'une agression par un loup, il faut s'abstenir de lui tourner le dos et de s'enfuir en courant. Il est préférable de l'affronter vigoureusement en criant, en tapant des mains ou en s'aidant de toute arme disponible. Le loup ne pouvant grimper, les personnes plus lestes trouveront refuge dans un arbre. Il est à noter que le loup se distingue du coyote par sa forme moins élancée, des oreilles rondelettes plutôt que pointues et une queue qu'il porte à l'horizontale plutôt que basse à la course. Fiche signalétique. Loup gris, Canis lupus, Grey Wolf, Timber Wolf. Classification, mammifère de l'ordre des carnivores et de la famille des canidés. Couleur du pelage, du blanc au noir mais généralement gris cendré. Longueur totale, de 1,6 à 1,8 mètres. Longueur de la queue, de 39 à 48 cm. Hauteur à l'épaule, de 66 à 97 cm. Poids adulte, de 18 à 42 kg, le mâle étant plus gros que la femelle. Nouveau-né, de 350 à 450 g. Nombre de petits, de 1 à 14, de 5 à 7 en moyenne. Longévité, moins de 10 ans en nature, de 15 à 20 ans en captivité. Un retour fragile. L'arrêt des mesures d'élimination a porté ses fruits. Le Canada abrite aujourd'hui, après la Russie, la 2e plus importante population de loups gris du monde. Ceux-ci seraient entre 50 000 et 60 000 à parcourir le pays, dont 9 600 en Ontario, 8 000 en Colombie-Britannique et 7 000 au Québec, surtout localisés dans la taïga et la toundra du nord québécois. Au Canada, l'espèce n'est pas en danger et ses effectifs sont stables ou en croissance. Au Québec, il est permis, selon certaines modalités, de le chasser ou de le piéger. Quoi qu'il soit en meilleure posture qu'au siècle dernier, le loup demeure sensible à la destruction de son habitat et à la rareté de ses proies. La situation est cependant plus inquiétante pour son confrère, le loup de l'Est. Un débat taxonomique persiste toujours à savoir si le loup de l'Est est une sous-espèce du loup gris. Des analyses génétiques récentes ont incité le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, COSEPAC, à tout de même considérer le loup de l'Est comme une espèce à part entière, Canis specimen CF Lyacon, et à lui accorder le statut d'espèce menacée en 2015. La répartition du loup de l'Est englobe la forêt décidue du sud-est de l'Ontario et du sud-ouest du Québec sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, ce qui inclut les secteurs du Parc national du Mont-Tremblant et du Parc national de la Mauricie, où on a longtemps cru avoir affaire à des loups gris. Au Québec, le loup de l'Est partage par ailleurs son territoire avec le loup boréal, un hybride issu du croisement entre le loup gris et le loup de l'Est, qui habite principalement, comme son nom l'indique, la forêt boréale. Les recherches des dernières décennies ont démontré que la créature maléfique de jadis est en réalité un animal à la fois intelligent, altruiste et fidèle, dont le rôle écologique est indéniable. Nul doute que le patriarche du meilleur ami de l'homme n'a pas fini de nous surprendre. C'était « Le loup gris, la voix des grands espaces », un texte de Michael Dijon, paru dans Nature sauvage, hiver 2021-2022, numéro 54.
Tchernobyl, les chiens sont mutants. Un texte de Québec Science paru le 20 mars 2023 dans le magazine Québec Science. Plus de 35 ans après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les animaux sauvages abondent dans la région. Mais ça ne veut pas dire que les radiations sont inoffensives. Le 26 avril 1986 marque la survenue du plus grave accident nucléaire de toute l'histoire. Ce jour-là, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a explosé lors de tests techniques. Cet accident a engendré des radiations 400 fois plus élevées que celles provoquées par la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima, au Japon, lors de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'explosion, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées des environs de la centrale. Ils n'ont jamais pu retourner à la maison. La zone d'exclusion de Tchernobyl, soit le territoire contaminé par la radioactivité autour de la centrale nucléaire, couvre une superficie d'environ 2600 km², ce qui correspond environ à 5 fois l'île de Montréal. Et jusqu'à ce jour, cette zone est interdite aux humains. Étant donné les conséquences possiblement mortelles d'une exposition à de telles radiations, on s'attendait à ce que la zone d'exclusion devienne un désert sans vie. Mais étonnamment, plus de 35 ans après l'explosion, les animaux sauvages abondent. Grâce à des caméras placées par des scientifiques, on sait maintenant que se côtoient des ours, bisons, loups, lynx, chevaux et oiseaux. En fait, il y a davantage d'animaux qu'avant l'accident, et même davantage que dans les régions non contaminées des alentours. Attention, cela ne veut pas dire que les radiations ont des effets positifs sur les animaux, mais que les activités humaines, comme l'exploitation forestière, la chasse et l'élevage, ont des conséquences encore pires, et que la nature est très résiliente, malgré son exposition aux radiations. La zone d'exclusion est d'ailleurs devenue une sorte d'énorme laboratoire naturel, permettant l'étude de l'évolution des animaux sauvages dans des environnements extrêmes. Une récente étude démontre par exemple que les chiens errants de la région sont génétiquement différents des autres chiens dans le monde en raison de cette exposition, des mutants en quelque sorte. Des scientifiques ont réalisé des analyses génétiques entre 2017 et 2019 sur 300 chiens qui vivent directement autour de la centrale et entre 15 à 45 kilomètres du site de l'explosion. Et ils ont même été en mesure de distinguer différentes populations de chiens grâce à leurs gènes en fonction de leur distance de la centrale. Ces différences génétiques ont-elles un impact sur leur santé, leur comportement ou leur apparence? Encore trop tôt pour le dire. Mais les chercheuses et chercheurs soupçonnent que ce sont leurs mutations génétiques qui ont permis à ces chiens de survivre aux radiations. Un genre de super-pouvoir. En somme, la catastrophe de Tchernobyl démontre que l'élimination des pressions humaines à long terme permet à la nature de reprendre ses droits, mais pas à n'importe quel prix. Celui d'une exposition à des niveaux très élevés de radioactivité qui n'est certainement pas inoffensive. C'était à Tchernobyl, les chiens sont mutants. Un texte de Québec Science, paru le 20 mars 2023 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.